Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 26 février 2024 et voici donc la chronique du groupe Fred Zeller dans laquelle je vais vous parler en premier lieu de Robert Banater, de la disparition de Robert Banater à l'aide d'un texte qu'a écrit Jean-Marc Chiappa. Et voici donc ce que dit Jean-Marc Chiappa à ce sujet. La disparition de Robert Badinter, ancien ministre de la Justice et abolitionniste de la peine de mort dans ce pays, est un fait politique. Comme tout fait politique, elle a été l'objet de commentaires et de manœuvres, à vrai dire, assez sordides. Pour nous, il n'y a ni ambiguïté ni échappatoire. Robert Badinter a fait abolir la peine de mort et, à ce titre, mérite un hommage appuyé. Il s'inscrivait dans la continuité des Robespierre, Victor Hugo, Jean Jaurès. Qu'il ait fallu attendre 1981 montre l'étendue, ou la limite, de la prétendue civilisation française. Insistons, Robert Badinter mérite tout notre respect pour cette abolition. Cela étant, toutes les actions politiques, toutes les prises de position de Robert Badinter ne méritent pas nécessairement, loin s'en faut, le respect que l'on doit à son combat contre la peine de mort. Et c'est ici que commencent manœuvres et turpitudes. Robert Badinter meurt, on parle à sa place. À commencer par l'inénarrable Emmanuel Macron, tout heureux de trouver quelqu'un à qui rendre hommage. C'est le vice se parant de la vertu. Le vice des vivants et la vertu des morts. Macron rend hommage à peu près à n'importe qui, tel scientifique, tel acteur, telle chanteuse, les victimes du 7 octobre, à peu près tout le monde. Mais quand on rend hommage à tout le monde et qu'on oublie dans la liste des personnes devant qui on s'incline, les hommes, les femmes, les enfants de Palestine, ce n'est pas seulement une faute de goût et une basse manœuvre politicienne, cela a un nom, le racisme. Avec un sens de la propriété privée qui est celui des grands capitalistes, la veuve de Robert Badinter, Elisabeth Badinter, principale actionnaire du groupe de publicité Publicis, chiffre d'affaires de près de 15 milliards d'euros en 2023, excusez du peu, a décidé que la mémoire de Robert Badinter était sa propriété personnelle et non une part du patrimoine de l'humanité. Avec le même sens de la pudeur propre à ces groupes capitalistes, Elisabeth Badinter a parlé de morale, excluant la France insoumise du champ moral qui est le sien et prétendant chasser LFI de l'hommage qui était rendu à Robert Badinter. Certes, LFI a agi comme elle l'entendait. Tel n'est pas notre propos. Mais Elisabeth Badinter parle de morale, condamne l'islamisme politique, condamne LFI. Un fait, cependant, gâche cette morale évanescente et béate. Le groupe Publicis, dont Mme Badinter est, rappelons-le, la principale actionnaire, est responsable de la communication de l'Arabie Saoudite, grande démocratie féministe et égalitaire, comme chacun sait. Voir comment l'Arabie Saoudite veut redorer son image en France dans Salange, 1er avril 2016. C'est bien évidemment ce sens aigu de la morale et des affaires qui permet à Mme Elisabeth Badinter de distribuer les titres d'honorabilité. Nous ne mangeons pas de ce pain-là, nous rendons hommage sans payer tribut. Jean-Marc Chiappa. Voilà, donc je voulais vous lire ce texte qui me semble effectivement tout à fait ajusté pour passer maintenant à un second sujet où là encore on voit toute une série de manœuvres tout à fait condamnables et sordides. C'est tout ce qui s'est passé à l'occasion de la panthéonisation de Manouchian. Alors, j'ai trois documents apporté à votre connaissance. Le premier, c'est un communiqué de l'Association des Amis de Maurice Rachfuss qui dit ceci. Le communiqué est intitulé « Les fossoyeurs de la mémoire ». Pour quelle raison faudrait-il se féliciter de la panthéonisation de l'immigré Missak Manouchian et de sa compagne Mélinée? En quoi le fait de descendre 80 ans jour pour jour après son assassinat par les nazis, dans la crypte sombre et sans âme du Panthéon pour y rejoindre un nombre de grands hommes infréquentables de leur vivant, représenterait un intérêt quelconque. Les idéaux d'émancipation de Missak Manouchian et de tous les membres de son groupe n'ont rien à voir avec les pompes de l'Empire et de la République, ils lui sont même radicalement opposés. Pourchassé et traqué par la police de Vichy et l'armée allemande, dans le Paris de l'occupation, il faisait partie des rares survivants à résister les armes à la main contre le fascisme après une répression inimaginable durant le terrible hiver 1943. Avant-guerre, ils avaient déjà été pourchassés comme immigrés clandestins par la police de la Troisième République. Ensevelir Manouchian et Ménilé dans la crypte du Panthéon, c'est un incroyable contresens et une double trahison. Parce que ce cirque mémoriel voulu par Emmanuel Macron alimente avant toute chose des fantasmes cocardiers et une récupération de type chauvine à laquelle les intéressés ne sont pas en mesure de s'opposer. Parce que cette cérémonie médiatique de récupération est organisée par ceux-là même qui empilent, depuis des années, les lois les plus liberticides et les lois racistes à l'encontre des migrants, dont la plus récente, votée avec les voix de l'extrême droite en décembre 2023, fait droit à la préférence nationale. La volonté de remise en cause du droit du sol sur l'île de Mayotte, dans l'archipel des Comores, de l'initiative même de ce gouvernement, qui court après les fondamentaux du RN, nous prépare l'arrivée des fascistes au pouvoir. Cette politique délétère et funeste est aux antipodes des combats internationalistes et antifascistes de Missak Manouchian et de ses camarades de combat. Donc c'était le communiqué de l'Association des Amis de Maurice Rachus. Deuxième communiqué, c'est celui qui a été émis par l'Union juive française pour la paix, UJPF. Juifs en déshérence, Arméniens orphelins du génocide, Italiens et Espagnols combattants antifascistes, nous savons ce que nous devons aux 23 fusillés de l'affiche rouge et à Olga Bansik, guillotinée en Allemagne. Le groupe a été traqué, arrêté et torturé par la police française avant d'être livré à la Gestapo. Leur combat s'inscrit dans nos luttes antiracistes, antifascistes et anticolonialistes d'aujourd'hui. Macron veut faire de Missak et Méliné Manouchian des « grands hommes », entre guillemets, auxquels la « patrie » française devrait être reconnaissante. Hypocrisie et trahison. Trahison. Ces combattants étaient internationalistes, révolutionnaires, antifascistes. Mêler leurs cendres à celles des militaires napoléoniens ou d'économistes libéraux est une trahison. Assigner à leur vie un prétendu combat pour la « patrie française » est une trahison. Trahison. Isoler les Manouchians et oublier qu'ils appartenaient à un groupe combattant est une trahison. Une tentative du même ordre avait été tentée avec Gisèle Halimi, juive anticolonialiste, avocate du FLN algérien et membre du tribunal Russell sur la Palestine. Sa famille a, jusqu'à présent, fait échouer ce projet. Hypocrisie. Utiliser l'incontestable puissance évocatrice de la vie de ces « étrangers et nos frères pourtant ». C'est une citation. Au moment même où l'on fait voter une des pires lois xénophobes sur l'immigration et où à Mayotte, on commence la remise en cause du droit du sol. Hypocrisie. Quand Macron fait le lit de l'extrême droite, constituant un front républicain du RN au PS lors de l'hommage aux victimes du 7 octobre 2023. Il escompte équilibrer en même temps par un geste mémoriel associant des antifascistes qui l'auraient certainement combattu. Le joueur de bonneteau nous montre une figure admirable pour dissimuler des pratiques politiques infâmes. Manouchian, Griesbach, Elek, Vachbrot, Vichitz, Fingerveid, Botzloff, Fontano, Alfonso, Rajman et Olga Bansik sont dans nos cœurs en cette fin février qui fut celle de vos derniers moments. La petitesse manœuvrière, hypocrite et traîtresse de ceux qui nous gouvernent et sont complices aujourd'hui du génocide à Gaza, ne parviendra pas à détourner le sens de leur combat. La coordination nationale de l'Union juive française pour la paix, le 17 février 2024. Et voici donc maintenant le troisième document que je voulais porter à votre connaissance. C'est un texte qui est signé Gilles Manseron, Fabrice Richepouti et Alain Ruscio, qui est titré « Manouchian, Marine Le Pen et la Légion étrangère ». Au Panthéon, Marine Le Pen s'est permis une véritable provocation en invoquant dans un hommage aux étrangers résistants au nazisme l'action de son père dans les guerres coloniales au sein des légionnaires parachutistes. Des légionnaires étrangement omniprésents dans la cérémonie organisée par la présidence, par Gilles Manseron, donc Fabrice Risputi et Alain Rousseau. Et voici donc le texte de ces trois auteurs. Malgré les demandes légitimes qui furent faites de s'en abstenir, Marine Le Pen était présente lors de la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. Interrogée par France Télévisions sur l'apport des étrangers à la résistance, elle eut les propos suivants. Citation. « Vous savez, j'ai évidemment quelques liens familiaux avec la Légion étrangère. Donc, que des étrangers soient venus tout au long de notre histoire se battre pour défendre notre pays est une évidence. » Message crypté à l'intention du noyau dur du militant du FNRN, Front National, Rassemblement National, l'allusion fut sans doute incompréhensible au plus grand nombre. Or, il s'agissait bel et bien là de l'une de ces provocations dont est coutumière la famille Le Pen et qui montre une continuité entre le FN de son père et son RN. Une provocation particulièrement odieuse, puisque Marine Le Pen établissait ainsi un parallèle entre l'action de la résistance étrangère, communiste et internationaliste incarnée par Manouchian, et la courte mais sanglante carrière de son père Jean-Marie Le Pen lors des guerres coloniales en Indochine puis en Algérie. Une provocation à laquelle elle s'est peut-être crue autorisée par le choix présidentiel de faire porter tout au long de la cérémonie commémorative entre la place du Luxembourg et le Panthéon les cercueils de Missak et Méliné Manouchian, non pas par des militants partageant leur idéal internationaliste et leur adhésion aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais par des légionnaires en uniforme. Pourtant, des étrangers originaires de toute l'Europe, comme aussi des hommes venus du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et d'Indochine, ont participé à la résistance française. Comme l'a rappelé dans un livre récent l'historien Fabrice Risputi, Le Pen s'engagea en effet à deux reprises, en 1954 et 1955, puis en 1956-1957, dans un régiment étranger parachutiste, composé de légionnaires, nommé le 1er BEP en Indochine, puis le 1er REP en Algérie. Un épisode aussi éloigné que possible de celui de l'action des FTP-MOI pour la liberté des peuples occupés à disposer d'eux-mêmes, puisqu'il s'agissait de réprimer par la terreur l'aspiration des peuples vietnamiens et algériens à la même liberté et à la même indépendance nationale que celle pour laquelle la résistance française a lutté. Y compris en pratiquant des disparitions forcées, la torture et des exécutions extrajudiciaires, ce que fit le lieutenant Jean-Marie Le Pen lors de son séjour à Alger au premier trimestre 1957. Pour ne rappeler que l'un des épisodes sanglants de son activité, dans la nuit du 1er au 2 mars 1957, il fit irruption, donc il s'agit de Jean-Marie Le Pen, dans la maison de la casbah de la famille Moulet. Il tortura le père, Ahmed Moulet, qui mourut au cours du supplice et dont la mort fut maquillée en règlement de compte entre félagas, le jeune Mohamed Moulet. Découvrit ensuite un objet oublié par Le Pen, un poignard des jeunesses hitlériennes dont la lame était gravée au nom de J.M. Le Pen, premier REP. On peut raisonnablement faire l'hypothèse que cette relique lui avait été offerte par l'un des nombreux légionnaires allemands. 30 000 prisonniers allemands furent en effet incorporés dans la Légion étrangère française après la défaite nazie. Tous les légionnaires allemands n'étaient pas nazis. Il y eut des antinazis. Des antinazis, parfois engagés dès 1940, qui ont combattu avec la France libre ou après la défaite de l'armée Rommel, et même des déserteurs qui ont rejoint les maquis du FLN-ALN. Et certaines victimes de la torture ont indiqué que les légionnaires allemands qui avaient relevé les légionnaires français, commandés par le lieutenant Maurice Schmitt, étaient moins cruels et violents qu'eux. Mais un des Para, en Indochine, à Suez, puis en Algérie. Pardon. Mais un nombre important, 3 à 4 000, étaient d'anciens de la Waffen-SS, donc sur ces 30 000 prisonniers allemands qui sont rentrés dans la Légion étrangère. Le Pen les côtoya parmi les Para, en Indochine, à Suez, puis en Algérie. Il fréquenta en particulier l'un d'entre eux, Fritz Feldmeier, ancien de la Waffen-SS et bourreau à tout faire de la Villa Cesini à Alger, cette véritable usine à supplice qui était le poste de commandement du 1er REP, son régiment. Marine Le Pen n'est pas seule en cause dans ce curieux mélange des genres, pour ne pas dire dans ce détournement méboriel opéré lors de l'hommage à Manouchian. L'idée de faire porter les cercueils de ces deux résistants par des légionnaires à képi blanc apparaît comme une perche tendue à Marine Le Pen, malgré les déclarations faites peu avant par Emmanuel Macron au quotidien L'Humanité, affirmant ne pas souhaiter sa présence. Il eût été véritablement fidèle à leur engagement et autrement chargé de signification et d'émotion de les faire porter par des travailleurs venus d'ailleurs, vivant dans notre pays, des personnes arrivées comme eux lors des immigrations successives qui ont construit la France. En choisissant au contraire de faire porter leurs dépouilles par des soldats de la Légion étrangère, Emmanuel Macron a, tout en feignant de rendre hommage aux communistes et sans que Fabien Roussel ne perçoive le piège, rendu possible la provocation de Marine Le Pen sous la voûte du Panthéon de la République. Alors que cette panthéonisation est fondamentalement une victoire des antiracistes et des défenseurs des droits de l'homme, il a eu le front, peu après le vote de la loi sur l'immigration adoptée avec le soutien du FNRN, de chercher à lui offrir une nouvelle victoire idéologique. Et donc c'est ce texte qui est signé Gilles Manceron, Fabrice Rismouti et Alain Ruscio. Voilà. Donc ça, c'était le troisième texte sur cette question donc de la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. Alors maintenant, j'ai encore un document, mais on va changer de sujet. C'est sur la question, donc, en Espagne, des accords avec le Saint-Siège. Bon, vous savez que la France a voté la loi de 1905 qui sépare les églises de l'État. Ce n'est pas le cas dans la plupart des pays européens. Et en particulier en Italie, en Espagne, existent donc des accords. Pour l'Italie, qui remontent aux accords du Latran avec propulsés par Mussolini. Et donc en Espagne, il y a également une situation d'accord avec le Saint-Siège. Et sur cette question-là, nos amis et camarades de l'AICA Europa, donc camarades espagnols, nous ont transmis un texte que je trouve particulièrement intéressant, qui est titré « La mémoire démocratique exige un État laïque et, à cette fin, la révocation des accords avec le Saint-Siège ». Ça date d'un petit peu plus d'un mois. C'est un texte qui a été rédigé le 3 janvier 2024. Et voilà ce que dit ce texte, donc a publié à l'occasion du 45e anniversaire de la signature des accords de 1979 entre l'Espagne et le Saint-Siège. Le 3 janvier 2024 marquera les 45 ans de la signature des accords de 1979 entre l'État espagnol et le Saint-Siège, et seulement 5 jours après l'entrée en vigueur de la Constitution, en vigueur aujourd'hui, le 29 décembre 1978. Il est notoire que ces accords avec un État théocratique, négociés avant la Constitution, continuent de porter atteinte à la souveraineté nationale au profit exorbitant de l'Église catholique, une institution qui viole les droits de l'homme, en particulier ceux des femmes, des homosexuels et des enfants. À l'occasion de cet anniversaire, je voudrais montrer comment la survie de ces accords et, en fin de compte, de la situation confessionnelle de facto de l'État espagnol contrevient à ce que l'on appelle la mémoire historique ou la mémoire démocratique. Le 19 octobre 2022 est entrée en vigueur la loi de la mémoire démocratique, LMD, qui a comblé les lacunes de la loi de la mémoire historique de 2007, ce dont il faut se réjouir, mais qui est encore loin d'être suffisante à plusieurs égards, malgré l'autosatisfaction des partis politiques qui l'ont fait adopter, et le rejet de la droite ultramontaine, ce qui, d'un point de vue démocratique, est généralement interprété comme un bon signe. Rappelons que la mémoire dont nous parlons est celle du désastreux régime franquiste, et, on s'en doute, de sa principale marque idéologique, le national-catholicisme. La mémoire historique et démocratique ne doit pas oublier le fondement national-catholique du franquisme, l'idéologie catholique étant consubstantielle à la dictature et l'Église ayant été la complice active tant du coup d'État de 1936 que de la répression et des crimes franquistes, bref, des violations massives des droits de l'homme. Or, selon des associations mémorialistes comme l'Association pour la récupération de la mémoire historique et l'Ateneo Basilio Lacorte, le LMD, ne mentionne à aucun moment l'Église catholique ou le national-catholicisme. Avec cet étonnant oubli, parler de vérité, justice et réparation dans la loi ressemble à une mauvaise blague. Au contraire, l'Ateneo demande, citation, que l'Église catholique rende des comptes pour son rôle de pilier de la dictature et de sa répression. Il ne faut pas oublier que le catholicisme national était incarné dans les lois et les pratiques du mouvement, ce qu'il était centralisé par le concordat de 1953 avec le Saint-Siège. Or, cet ignoble concordat est toujours en vigueur, seulement révisé par les accords de 1979 et 1976 susmentionnés. Ces accords sapent la souveraineté nationale en la mettant au service des intérêts d'un autre État, un État théocratique et antidémocratique qui viole les droits humains fondamentaux, en particulier ceux des femmes et des enfants. De son côté, la Constitution de 1978 a ficelé certains engagements clés du dictateur, comme la continuité de la très catholique et peu exemplaire dynastie des Bourbons à la tête de l'État et les prérogatives de l'Église catholique, donc dans l'article 16.3. Revenons au LMD. Comme le dit l'Athénéo Basilio Lacorre, en bonne logique, c'est une citation, « En bonne logique, si le franquisme est déclaré illégal dans la loi, comment ne pas faire de même avec ces accords franquistes ?» Que signifie cette continuité avec une partie fondamentale de l'essence du régime franquiste? Que l'Église catholique, malgré les grands progrès de la sécularisation de la société espagnole, continue à jouir de privilèges économiques, éducatifs, symboliques, médiatiques, incompatibles avec la démocratie, car il représente une violation du principe d'égalité entre les citoyens et une atteinte à la liberté de conscience des personnes, en particulier des plus vulnérables, comme nous le verrons. Il convient de noter que l'Église jouit d'énormes prérogatives économiques bien supérieures à celles du régime franquiste, puisque l'État lui fournit chaque année plus de 12 000 millions d'euros entre allocations directes et exonérations fiscales, comme Europa Laïca l'a calculé et dénoncé. En outre, les pouvoirs politiques ont facilité l'appropriation illégitime de plus de 100 000 biens publics inestimables par l'Église entre 1946 et 2015 par le biais de ce que l'on appelle les immatriculations. Celles-ci ont commencé sous le régime de Franco, 1946, et se sont intensifiées en 1998 avec la loi d'Aznar. Et le pillage monumental a été validé en 2021 grâce à la complicité du gouvernement, avec les guillemets qui conviennent, progressiste, du PSOE et de Unidos Podemos, avec une liste déplorable et une fermeture ignominieuse. Une bonne partie de l'argent que l'État verse à l'Église sert en outre à poursuivre l'endoctrinement catholique, élément essentiel du franquisme, qui a favorisé et en grande partie réalisé l'intériorisation d'une idéologie irrationaliste, antiscientifique et d'ultra-droite. Ce fondamentalisme atroce et fanatique a notamment permis la répression des femmes et des homosexuels, imposant un mode de pensée et de comportement extrêmement machiste et antidémocratique. Le LMD vise à, citation, « réparer et reconnaître la dignité des victimes de toutes les formes de violence intolérantes et fanatiques ». Malheureusement, lorsque nous parlons des victimes du régime franquiste, nous avons tendance à oublier le grand nombre de personnes, en particulier les femmes et les homosexuels, mais aussi les hommes hétérosexuels, qui ont vécu des vies rabougries par la soumission de leur corps et de leur esprit aux diktats d'individus cyniques qui réprimaient et blâmaient leurs pensées, leurs désirs, leurs sentiments, leurs actions. Des victimes silencieuses, qui n'ont pas payé de leur vie les atrocités commises par les catholiques nationaux, mais de leur vie une vie diminuée et soumise. L'écrivain Esther López Barceló raconte dans une interview au sujet de son roman « Cuando ya no quede nadie » comment les femmes enfermées dans la sphère domestique ont réalisé de grands exploits de résistance dans l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, à savoir la répression franquiste. Elles ont été confrontées à des situations terribles parce que la répression dont elles faisaient l'objet était double, de classe et sexuelle. La journaliste Carmen Rengel, dans « La loi de la mémoire démocratique, une incantation tardive mais honnête contre l'injustice », dit que le LMD envisage une définition élargie de la victime par rapport à la loi de 2007. Mais je crains que la définition soit encore insuffisante, au moins dans le sens que je signale. Victime de quelle manière et de qui? Certes, le LMD reconnaît que les femmes ont subi des humiliations, des viols, des persécutions, des violences ou des sanctions pour leur activité publique ou politique, pour le seul fait d'être femme ou pour avoir été mère, compagne ou fille de personnes persécutées, victimes de représailles ou assassinées. Elles ont été réprimées pour avoir tenté d'exercer leur droit au libre développement personnel et pour avoir transgressé les limites de la féminité traditionnelle. Fin de citation. Et elle ajoute plus loin que la répression contre les femmes se manifesterait sous une forme de répression idéologique, morale, religieuse, sexiste, qui viserait les femmes les plus vulnérables de la société, telles que les mères de familles nombreuses, les femmes pauvres ou célibataires. Cependant, cette répression s'est exercée de manière soutenue et déguisée en bienveillance sur toutes les femmes, et pas seulement sur elles, et, ce qui est essentiel, dès l'enfance, à travers l'endoctrinement et la répression religieuse, qui ne sont pas décrits et développés dans la loi, mais qui attaquent sans relâche leur autonomie morale, leur liberté de conscience et donc le développement de leur vie. Pour toutes ces raisons, bien que l'article 34 de la LMD promet, citation, « des mesures destinées à éviter que les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant le coup d'État, la guerre et la dictature ne se reproduisent », fin de citation, il ne ressort pas clairement de la loi que la violation des droits de l'homme des enfants qu'implique la catéchèse continue d'être perpétrée aujourd'hui, plus particulièrement en ce qui concerne la responsabilité de l'État, la catéchèse scolaire, anti-scientifique, misogyne et homophobe, dans les matières de la religion catholique et d'autres religions. Seulement, évidemment, les effets néfastes de la catéchèse sont aujourd'hui atténués, heureusement, grâce à un environnement plus sécularisé. Au lieu de mettre fin à ce harcèlement mental, les gouvernements démocratiques de tous bords l'ont étendu aux irrationalistes et à la décrédibilisation morale d'autres religions, comme l'islam, l'évangélisme ou le judaïsme. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que les abus mentaux des catéchistes sont très souvent le prélude aux très nombreux abus sexuels sur les enfants. En d'autres termes, l'endoctrinement religieux promeut non seulement la soumission des femmes aux hommes, introduisant une idéologie sexiste qui favorise la persistance de la violence de genre, mais facilite également un environnement d'abus d'autorité et de pouvoir qui favorise l'abus sexuel des garçons et des filles. Par conséquent, il est clair que pour développer la mémoire démocratique dans les écoles, il ne suffit pas d'introduire dans le contenu du programme un récit de la répression qui a eu lieu pendant la guerre et la dictature, mais il est également nécessaire d'éliminer l'abus mental religieux qui était si caractéristique de la dictature elle-même. En résumé, pour respecter véritablement la mémoire démocratique, il est nécessaire de récupérer une version actualisée de l'État laïque, la Seconde République, qui a été détruit par le coup d'État de Franco en 1936. Il faut mettre fin à l'endoctrinement religieux des enfants, en échange de l'éducation émancipatrice dans une école publique, universelle et laïque, et il faut mettre fin aux prérogatives de toutes sortes de l'Église catholique. Sans cela, la mémoire démocratique et les droits de l'homme continueront d'être bafoués. Rappelons que, contrairement à ce que propage le cléricalisme, la laïcité n'est pas anti-religieuse, mais établit un cadre de coexistence dans l'égalité où les convictions individuelles peuvent se développer librement, dans le respect de la loi commune et sans ingérence de l'État. Pour en revenir à l'anniversaire du 3 janvier, puisque, comme l'a écrit Gonzalo Puente Orea, la laïcité est un principe inséparable de la démocratie et que les accords avec le Saint-Siège constituent un obstacle insurmontable à la réalisation d'un État laïque véritablement démocratique, nous, à Europa Laïca et dans d'autres organisations laïques, insistons sur la nécessité urgente de dénoncer et d'annuler, et non de mettre à jour ou de modifier, ces accords, et naturellement ceux de 1992 avec d'autres dénominations religieuses. Espérons que les forces « progressistes » entre guillemets, au pouvoir rendront effectif ce progrès fondamental, de sorte qu'à l'occasion du 46e anniversaire des accords de 1979, nous puissions célébrer le fait que ceux-ci, les accords de 1992 et toutes les lois, normes et habitudes politiques qui en découlent ne sont plus en vigueur. Donc voilà, c'était la fin de ce texte donc d'un membre du conseil d'administration d'Europa Laïca, nos camarades espagnols. J'en termine ici pour cette chronique et vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
lèvres brillantes.